RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal avec Sébastien Duhamel.
Et le Gabon, pour débuter, ou un peu moins de 2 ans après son coup d'état contre Ali Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier les résultats provisoires. Il remporterait 90,35% des voix, très très loin devant Alain-Claude Bilibinzé et ses quelques 3%. Un point de situation ensuite autour de Goma dans l'est de la RDC. 52 civils y ont été tués en fin de semaine dernière selon les autorités nationales. On reviendra sur ces événements. La médiation de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda qui a officiellement un nouveau visage, c'est fait. Le président togolais Fornia Singbe a pris la succession de l'angolais Joao Lourenço. Et puis la troisième ville du Tchad, Abéché, où la population tire la sonnette d'alarme. Pénurie croissante d'électricité, d'eau, de carburant et de gaz. La vie sur place est rendu très compliqué manifestement. 90,35% au Gabon. C'est donc le score annoncé de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle qui s'est tenue samedi. Lui qui a renversé Ali Bongo en août 2023. Lui qui a présidé la transition. Il devance très largement les autres candidats selon les chiffres encore provisoires du ministère de l'Intérieur. Loin devant, je vous le disais, l'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé crédité de 3%. Les 6 autres candidats, eux, ne dépassent pas 0,56%. 8 jours pour contester désormais s'il y a lieu. Mais d'ores et déjà, le camp Oligui Nguema était à la fête hier soir. Ils ont suivi cela à leur QG de campagne de Libreville, où se trouvait également Yves-Laurent Goma pour RFI.
Arrivée triomphale de Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Zita au QG de campagne. Assis en face d'un écran géant, Oligui Nguema a suivi en direct la publication des résultats. La foule a exulté dès l'annonce de la victoire du général qui a mis une pause dans sa carrière militaire. L'euphorie a gagné les adeptes de l'ancien putschiste devenu président élu.
Il n'y a pas de char, le wifi passe 24 sur 24.
Les gens font comme si on était le 31 août, on attendait le 1er janvier. C'est quand même exceptionnel, c'est spirituel.
Nous sommes plus que satisfaits de ce qui est en train de se vivre et se passer au Gabon. Après près de 20 ans, c'est aujourd'hui qu'on participe à une élection sans enlèvement, sans agression, sans vol, sans bagarre entre les civils et les agents de sécurité. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau Gabon, c'est un Gabon d'espérance.
Dans une brève allocution, Oligui Nguema a demandé à tous les Gabonais de tourner la page de la campagne électorale et de reprendre le travail dès ce lundi pour bâtir le Gabon digne d'envie qu'il leur a promis. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Le Gabon, où la participation a d'ailleurs été revue à la baisse comparée à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, 70% des Gabonais se sont déplacés selon le ministère de l'Intérieur au terme d'une campagne qui n'avait manifestement pas suscité l'engouement populaire. C'est ce qu'avaient notamment constaté nos correspondants la semaine passée au moment du retrait des cartes d'électeurs et au terme également d'un processus électoral duquel ont été écartés de nombreux prétendants, à l'image du syndicaliste Jean-Rémy Yama. Son dossier a été refusé et il porte aujourd'hui un regard quelque peu critique sur cette élection. Je vous propose de l'écouter.
Les vieilles habitudes sont revenues. Chaque responsable a voulu montrer au président élu que le meilleur score, c'est chez moi. Et bien donc, les vieux réflexes sont toujours revenus. Le bourrage des urnes, l'achat de conscience. En tout cas, j'ai été témoin. Et c'est vraiment triste. Même si la victoire du président Oligui était attendue, elle ne souffre d'aucune contestation en tant que telle. Il n'avait vraiment pas besoin de ça, il était sûr et certain d'être élu, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit lui qui ait donné cet ordre. C'est le retour, en fait, ce sont les méthodes de l'ancien système, et on n'est pas surpris puisque tous ceux qui étaient à la tête de cette campagne, que ce soit dans des coordinations provinciales, départementales ou même nationales, n'étaient que des pédégistes. Et nous arrivons malheureusement à ce résultat triste. Je le dis parce que la transition avait bien commencé. Elle est rentrée par la grande porte et elle sort par la fenêtre.
Le syndicaliste Jean-Rémy Yama qui réagit après l'élection gabonaise. Une élection sur laquelle vous reviendrez également ce matin dans Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Rendez-vous à 8h10 en temps universel. Un lourd bilan dans l'est de la RDC. Après les tirs nourris entendus dans la nuit de vendredi à samedi dans l'ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu, les autorités nationales ont recensé pas moins de 52 civils tués. Mais que s'est-il réellement passé sur place ce week-end? Un groupe membre des milices Wazalendo qui soutient l'armée congolaise a revendiqué cette attaque. En face, l'AFC M23, qui a pris le contrôle de Goma en janvier avec le soutien du Rwanda, a dénoncé, lui, une offensive appuyée par l'armée congolaise et visant à reprendre le contrôle de la ville. Mais version démentie aujourd'hui par les FARDC. Écoutez leur porte-parole, le général-major Sylvain Epengue.
Cette communication infondée et dépourvue de toute logique accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. Les forces armées tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, au sud de Goma. Les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté pour manipuler l'opinion, pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est et dans la sous-région.
Le général-major Sylvain Epengue, porte-parole des FARDC. Et pendant ce temps, il succède, lui, à João Lourenço, à la tête de la médiation entre la RDC, justement, et le Rwanda. C'est désormais officiel, le président togolais Faure Gnassingbé a repris le flambeau de la médiation portée au nom de l'Union africaine. João Lourenço a souhaité se mettre en retrait. Il assure actuellement la présidence tournante de l'Union. C'est donc à son homologue, Faure Gnassingbé, que revient cette lourde tâche. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Au Togo, notamment, une quinzaine d'organisations dénoncent un manque de légitimité de leur président. Parmi elles, Louis-Rodolphe Atiogbé et son mouvement Novation Internationale.
Nous avions quand même été choqués par sa désignation. Pourquoi ? Quelqu'un qui viole tous les droits des citoyens dans son pays, on le choisit comme médiateur dans une telle crise, c'est un éloge au mépris de la démocratie, du respect des droits de l'homme. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2 décennies. Un tel médiateur devrait être respectueux des tests et dispositions nationales, sous-régionales et régionales. Une personne qui ne restreint pas les espaces de liberté dans son pays. Tel n'est malheureusement pas le cas du président Faure. Il ne dispose donc d'aucune légitimité qui n'incarne les valeurs de justice, d'exemplarité nécessaires à un médiateur crédible dans une crise de cette ampleur.
Louis-Rodolphe Atiogbé du mouvement Novation Internationale au Togo. Un coup de tonnerre sur la scène politique tanzanienne. Le principal parti d'opposition, le Chadema, a été exclu des prochaines élections générales. Et cela après avoir refusé de signer un code de bonne conduite électorale qu'il juge anticonstitutionnel. En 2020 et 2024 déjà, plusieurs de ses candidats avaient été disqualifiés de la course électorale. Mais cette fois, c'est une première dans le pays. C'est tout le parti qui a été écarté. L'horreur de la guerre au Soudan et le calvaire des déplacés du camp de Zamzam au Darfour Nord, un camp qui abrite des centaines de milliers de personnes et dont les paramilitaires FSR affirment avoir pris le contrôle après leur revers enregistré dans la capitale Khartoum face à l'armée régulière du général Al-Bourhan. Le Darfour Nord, où les FSR accentuent par ailleurs leur pression sur la capitale régionale El Fasher, au moins 56 civils y ont été tués en 2 jours, selon le gouverneur proche de l'armée. Une guerre au Soudan qui s'apprête à entrer dans sa 3e année. Et on débute, nous, justement ce matin sur RFI, une série de reportages sur les traces des exilés soudanais. On part à leur rencontre au Tchad après ce journal. Le Tchad, où les habitants d'Abéché tirent la sonnette d'alarme. Le chef-lieu de la région du Wadaï, 3e ville du pays, confronté depuis des mois maintenant à un manque croissant d'électricité, un manque d'eau, confronté également à une pénurie de carburant et de gaz qui complique véritablement le quotidien. On le comprend avec ce témoignage d'un médecin d'Abéché qui a accepté de nous parler. Il vit dans la ville depuis des années.
C'est un réel problème. Il faut avoir du carburant pour aller au travail. Il faut avoir de l'eau pour se laver, aller au travail. Il faut avoir du gaz pour te préparer à manger. S'il n'y a pas de gaz, maintenant le bois est interdit. Où est-ce qu'on va trouver la source? Donc, vous imaginez à peu près la situation. C'est ça la vie. S'il n'y a pas ça, quelle vie? Il n'y a pas de carburant à la station. Jusqu'à là, vous faites le tour dans les stations, vous allez voir les gens qui sont en rang pour attendre de prendre le carburant. Et si toi qui travailles, tu ne peux pas rester dans le rang 12h, 6h de temps pour avoir le carburant. Donc, on est obligé d'acheter sur le marché noir à 1253. Bon, l'eau, ça varie de... Bon, ils mettent dans les pousses-pousses qui varient de, je sais pas, de 1500 à 2000 francs. Pour l'hôpital, c'est nos groupes qui fonctionnent juste pour les interventions et les malades hospitalisés. Dans nos logements, à l'hôpital, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est plus de 4 mois qu'on est dans cette situation-là. Donc ça, c'est un problème réel.
Et voilà le témoignage de ce médecin d'Abéché qui nous rapporte donc les complications du quotidien sur place au Tchad. De nouvelles tensions qui apparaissent entre la France et l'Algérie à l'heure d'un réchauffement amorcé des relations une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères. Paris déplore qu'Alger demande le départ sous 48 heures de 12 agents français. Selon les services de Jean-Noël Barrot, il s'agirait d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens juste avant le week-end. 3 hommes dont un employé d'un consulat algérien suspecté notamment de séquestration et d'enlèvement. Alger en parle comme d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable. De son côté, la diplomatie française demande à l'Algérie de renoncer à l'expulsion des 12 agents français. Pendant ce temps, le ministre français de l'Intérieur est arrivé quant à lui hier soir au Maroc. Bruno Retailleau y effectue une visite de travail express d'une durée de 24 heures à peine, alors que Paris et Rabat continuent de renforcer leur partenariat. Bruno Retailleau parlera notamment coopération migratoire, lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue également. Allez, un mot sur ce décès qui endeuille la scène culturelle béninoise. On a appris la mort du dramaturge José Plia. Il est décédé samedi à 58 ans à Miami aux États-Unis. Ce franco-béninois qui a exercé de hautes fonctions dans le domaine de la culture dans les Caraïbes. Il a notamment dirigé l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et de développement avant d'être nommé en 2016 chargé de mission aux arts et à la culture du président Patrice Talon. RFI à 9h41 ici à Paris. Restez avec nous, bien sûr. Toute l'actu à retrouver en tout temps, en tout lieu sur RFI.fr, notre site internet. Et adoptez le réflexe application également. Il y en a deux, RFI et RFI Pure Radio. Notre matinale continue. On retrouve tout de suite Andréane Mella. Restez avec nous.